Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Le combat anti-djihadiste dans le Sahel, tout d'abord... Au Mali, les FAMA, les forces armées maliennes, ont perdu un total de 38 soldats dans l'attaque de deux camps militaires par des djihadistes dans le centre du pays en début de semaine. C'est ce que révèle un nouveau bilan officiel communiqué jeudi soir, aggravant encore plus la sévérité du coup reçu par les troupes gouvernementales. Le président bilan officiel datant de mardi soir faisait état d'au moins 25 soldats tués et d'une soixantaine portés disparus. Le nouveau total des pertes côté gouvernemental confirme l'ampleur du revers essuyé par l'armée malienne lundi et mardi autour des camps de Boulkessi et de Mondoro dans le centre du Mali, près de la frontière du Burkina Faso. L'armée malienne a finalement repris le contrôle des camps avec l'appui d'avions de chasse et d'hélicoptères de la force anti-djihadiste française Barkhane. 15 djihadistes ont été tués, selon le gouvernement malien. Afrique de l'Ouest toujours, politique en Côte d'Ivoire, condamnation à 5 ans de prison ferme de Jacques Mangoua, président du conseil régional de Béké et vice-président du PDCI de l'ancien président Henri Konan Bédier. Une sentence infligée jeudi de Bouaké, la correspondance de Siriki Baro.
La décision a été rendue par le tribunal de Boaké. L'homme était inculpé pour détention illégale de munitions de guerre sans autorisation administrative. Le 21 septembre dernier, plusieurs munitions d'armes de guerre et des armes blanches ont été découvertes dans l'une de ses résidences à Nguessankro, dans le département de Béoumi. Jacques Mangoua s'est défendu tout le long de ce procès qui a duré plus de 5 heures d'horloge de ne pas être le propriétaire des armes blanches et munitions retrouvées à son domicile. Malgré le plaidoyer de ses avocats, le procureur Brahima Bamba a fait un rapprochement entre les objets retrouvés et les affrontements interethniques qui ont eu lieu à Béoumi au mois de mai dernier. Des affrontements au cours desquels des armes de guerre ont été utilisées et où plusieurs personnes ont perdu la vie. Il a requis une peine d'emprisonnement de 5 ans, 5 millions de francs CFA d'amende et 5 ans de privation de droits civiques. Peine confirmée par le président du tribunal. Ses avocats entendent faire appel de cette décision. Au cours du même procès, le chargé de mission, Amani Moïse, a également été condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois ferme et 200 000 francs CFA d'amende pour divulgation de fausses informations dans les médias en rapport avec la présente affaire. Plus tôt dans la journée, des centaines de manifestants avaient réclamé la libération du prévenu devant le palais de justice. La situation a également dégénéré dans certains endroits, notamment à Djebonois, localité située à une dizaine de kilomètres de Boaké, bloquant la route internationale sur l'axe Abidjan-Boaké. Siriki Baro, Boaké, VOA Afrique.
Politique au Bénin, les partis politiques béninois invités le 10 octobre à un dialogue politique avec le pouvoir en place. C'est ce qu'a annoncé jeudi la présidence béninoise. Le Bénin connaît depuis avril une crise politique. Tous les partis ont été empêchés de prendre part aux élections pour élire les 83 députés, à l'exception de deux formations politiques qui soutiennent le président Patrice Talon. Ces derniers jours, des voix s'élèvent dans le pays pour mettre en garde le président Talon contre toute nouvelle tentative d'écarter les partis ne soutenant pas son action pour les élections municipales et communales prévues en mars 2020. Afrique centrale maintenant, au Cameroun, dernier jour du grand dialogue national sur la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. 333 personnes arrêtées et détenues dans le cadre des violences liées à cette crise ont recouvré la liberté. Décision prise hier sur ordre du président Paul Biya à la veille de la clôture de cette réunion ouverte lundi à Yaoundé. Le point avec notre correspondant sur place, Emmanuel Jules Ntap.
Les bénéficiaires de cet arrêt de poursuite judiciaire avaient été interpellés pour des délits commis dans le cadre de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ils étaient encore en détention et poursuivis devant les tribunaux militaires. Le président Paul Biya a ordonné qu'ils soient libérés sans délai en guise de soutien aux assises du Grand Dialogue National qui s'achève ce vendredi, mentionne le communiqué du secrétaire général de la présidence de la République publié à cet effet. Mais cette décision ne concerne pas le leader séparatiste anglophone Ayuk Tabe et ses 9 collaborateurs arrêtés au Nigeria, puis extradés au Cameroun avant d'être condamnés à perpétuité. Certains participants au Grand Dialogue National ont aussitôt réagi après la décision de libération de ces 333 détenus. Merci, Monsieur le Président de la République, pour cette décision qui touche tous nos cœurs et qui comble de joie tous les Camerounais, a écrit dans un tweet Grégoire Owona, le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, le parti au pouvoir. Cette décision est un acte personnel du président Paul Biya et non une résultante du Grand Dialogue National, a commenté pour sa part l'opposante Edith Kawala du parti CPP. Depuis le début de la crise anglophone, il y a 3 ans, plus de 400 personnes ont déjà bénéficié de l'arrêt des poursuites judiciaires devant les tribunaux sur ordre du président Paul Biya. Yaoundé, Emmanuel Jurmtap, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
La lutte contre Ebola dans la région des Grands Lacs d'Afrique, la Tanzanie a une nouvelle fois assuré qu'il n'y avait pas de cas d'Ebola dans le pays, dénonçant hier ce que les autorités tanzaniennes appellent des rumeurs que tout le monde devrait ignorer. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont mis en garde leurs ressortissants contre une telle possibilité, Michel Joseph.
Il n'y a eu aucun cas confirmé d'Ebola en Tanzanie, a affirmé la ministre de la Santé, Umi Mwalimu, à Dar es Salaam. Elle a ajouté que les informations circulant sur la présence d'Ebola ici sont juste des rumeurs. Selon elle, depuis le début de l'épidémie de fièvre hémorragique en RDC voisine, son pays a identifié 28 cas suspects, dont 2 en septembre, qui se sont tous révélés négatifs. Mardi, le Royaume-Uni a dit qu'il était probable qu'une personne ait succombé à la fièvre Ebola en Tanzanie. Le département d'État américain a fait de même. Fin septembre, l'OMS avait déploré le manque d'informations des autorités tanzaniennes sur de possibles cas de contamination dans ce pays. Madame Mwalimu a reconnu que la menace était réelle en raison de la proximité avec la RDC. Elle a indiqué que les contrôles dans les aéroports et aux frontières terrestres sont renforcés et elle a appelé la communauté internationale à soutenir son pays dans ses efforts contre le virus Ebola.
Relations États-Unis-Zimbabwe, Harare s'est indigné ce vendredi de la décision de Washington cette semaine d'interdire l'importation de diamants des mines zimbabwéennes de Marangé dans l'est du Zimbabwe. Les autorités zimbabwéennes démentent catégoriquement y avoir recours au travail forcé, contrairement aux affirmations des États-Unis. Nous n'avons jamais forcé quiconque, et encore moins les enfants, à travailler dans les mines de diamants de Marangé, a déclaré à l'AFP le ministre zimbabwéen de la justice Ziyambi. Monsieur Ziyambi qualifie l'interdiction de nouvelles excuses pour maintenir les sanctions américaines contre son pays. Des sanctions qui visent depuis 2003 une centaine d'entreprises étatiques et de personnalités zimbabwéennes, dont l'actuel président Emmerson Mnangagwa. Actualité aux États-Unis même, le président Donald Trump a publiquement invité jeudi la Chine à enquêter sur son adversaire démocrate Joe Biden, alors qu'une initiative identique auprès de l'Ukraine lui a déjà valu l'ouverture d'une enquête au Congrès des États-Unis en vue d'une possible procédure de destitution. Le point avec Jean-Roger Bion.
Alors qu'il quittait la Maison-Blanche pour un déplacement en Floride, le président américain a déclaré aux médias que la Chine devrait s'intéresser à Joe Biden, qui pourrait être son adversaire à la prochaine élection présidentielle en 2020, et à son fils et homme d'affaires, Hunter Biden. En réaction, le président démocrate de la Commission du renseignement de la Chambre des représentants, Adam Schiff, a jugé que le locataire de la Maison-Blanche avait rompu son serment de président demandant à la Chine d'enquêter sur Joe Biden. Cela dit, dans le cadre de leur enquête en vue de l'impeachment du président, les démocrates ont entendu à huis clos jeudi, pendant plus de 8 heures, Kurt Volker, qui fut envoyé spécial des États-Unis pour l'Ukraine jusqu'à sa démission la semaine dernière. Son témoignage a fourni des preuves abondantes montrant que pour obtenir une rencontre avec Donald Trump, il avait été demandé au président Zelensky qu'il enquête sur l'élection de 2016 et les Biden, a affirmé à la sortie un élu démocrate Eric Swalwell. Ce fut un tout autre son de cloche du côté des Républicains pour qui l'audition à huis clos de M. Volker démontre qu'il n'y a eu absolument aucune pression sur Kiev. L'enquête devrait franchir un nouveau cap ce vendredi avec l'audition à huis clos de l'inspecteur général des services de renseignement, Michael Atkinson, qui a largement contribué à faire éclater l'affaire ukrainienne au grand jour.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.